Ce matin, je vais poursuivre une série. Je ne pourrai pas rentrer dans tous les détails, mais je vais donner toutes ces séries plus en détail dans l'école du phare, là, qui va se constituer. Donc, il y a différents enseignements qui seront donnés, combat spirituel, prière, etc. Mais ce matin, j'ai vraiment à cœur de creuser la question de la requête, prière de demande à Dieu. Et je vous invite à la prière, justement, pour demander au Seigneur qu'il nous ouvre l'entendement, le cœur et l'esprit pour recevoir tout ce que le Seigneur m'a donné. Seigneur, merci, parce que, Seigneur, c'est vrai que c'est ton esprit que tu nous l'as donné pour que nous puissions, Seigneur, vraiment nous adresser à toi. Et Seigneur, ce matin, nous avons besoin que ta parole soit vraiment une lumière sur notre sentier, qu'elle nous éclaire, afin que nous puissions grandir et faire des progrès dans notre vie spirituelle, dans notre vie de prière. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Le mystère de la prière, effectivement, c'est un peu mystérieux de pouvoir nous adresser, nous, créatures humaines, à un Dieu qui est infini, un Dieu voilà, qu'on ne peut pas voir, sinon on meurt. Mais un jour, on le verra face à face, quand le temps sera venu et qu'il nous permettra d'être changé, notre corps physique en corps glorieux, comme le Seigneur a été changé. Alors, les requêtes, la prière de requête, elle consiste à exposer les besoins précis à Dieu au cours d'un entretien. Yonggi Cho était tellement précis qu'il disait « je veux une bicyclette de telle couleur, de telle, etc. » Et il a fait ses premières expériences de prière comme ça. Donc, n'hésitez pas à être précis dans vos demandes. Dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 24, il dit « demandez et vous recevrez ». C'est tout simple. Demandez et vous recevrez. C'est une promesse de Jésus à ses disciples que nous sommes. Encore faut-il savoir ce qu'il convient de demander. Et nous devons prendre garde à faire nos demandes conformément à la parole de Dieu, et ne pas faire des demandes selon la chair, comme on dit, c'est-à-dire pour satisfaire nos passions ou nos convoitises. Et certaines demandes formulées à Dieu ne sont pas des réels besoins, mais uniquement des envies, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, etc. Eh bien, ça, il ne faut pas s'attendre à ce que Dieu réponde. Hein. Donc, nous ne nous attendons pas à ce type de demande, qu'elle soit exaucée. Donc, il faut vraiment scruter notre demande à Dieu, qu'elle soit conforme à la parole. Dans l'épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens 2, l'apôtre dit « La prière, selon la chair, est une prière » en dehors de la volonté de Dieu, tandis que la prière par l'esprit, donc il y a la chair et l'esprit, correspond certainement à la volonté de Dieu, car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Si nous sommes remplis de l'esprit, si nous demandons à l'esprit de nous remplir, eh bien nous pouvons prier selon la volonté de Dieu. Donc c'est une garantie. Et c'est pour cela aussi la prière en langue, n'hésitez pas à prier en langue, parce que là, c'est vraiment le Saint-Esprit qui vous conduit dans ces prières. On abordera ça quand le temps sera venu sur les prières en langue. Dans 1 Jean, l'épître de Jean, chapitre 5, il dit « Nous avons auprès de Dieu une assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute ». Vous voyez, cette assurance, on va rappeler la foi, hein, c'est de croire que ce que nous demandons, selon sa parole, et il nous l'accorde. Alors il faut, dans cette prière de demande, de requête, reconnaître qui est Dieu. Ça c'est très important. À qui est-ce qu'on s'adresse? Alors on prie quelqu'un qui est incréé. Il n'est pas créé. Nous sommes créés, nous sommes limités, nous avons même des défauts à cause de la chute. Mais les anges aussi sont créés. Et on ne s'adresse pas à des anges, on s'adresse à Dieu. Et donc ça, il faut vraiment avoir la crainte de Dieu, hein, la crainte respectueuse de qui est Dieu. Il faut prier avec foi. Et je te reviendrai un peu tout à l'heure sur la question de la foi. La foi, c'est de comprendre le système, comment marchent les choses invisibles dans le ciel, hein, comment marche le fondement de l'autorité, comment fonctionne cette autorité hiérarchique dans le ciel, mais aussi comment fonctionnent les principes du royaume. Alors, les principes du royaume sont enseignés d'une part dans les béatitudes, c'est ce que Jésus a dit sur la montagne quand il s'est adressé à toute la foule. Et on voit là que Jésus revisite un petit peu l'enseignement de l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament. Donc les béatitudes, c'est souvent très important pour nous rappeler quels sont les principes qui régissent le royaume, le règne de Dieu. Il y a aussi la théologie du Nouveau Testament que je reprends dans l'Église. Donc ceux qui veulent le suivre, il y a une petite annonce à la fin pour que vous puissiez suivre cette approche du royaume qui va fonder notre foi dans le fait que Dieu règne et que nous pouvons régner avec lui. Faire son désir, le désir de Dieu, c'est l'objectif qu'il faut viser dans la prière. Non pas notre désir, mais le désir de Dieu. Écouter le Saint-Esprit, parce que pour connaître ce que Dieu a envie qu'il nous donne, ou qu'il, parce que s'il nous donne quelque chose, c'est pour nous faire progresser. Eh bien, il faut écouter le Saint-Esprit et prier dans ce sens-là. Donc il y a une collaboration entre nous et le Saint-Esprit qui doit s'établir. Et ça, c'est toute une approche aussi, une approche qu'on va faire dans la maison de prière, qui maintenant existe dans cette église, où on va prendre du temps aussi pour chercher la face de Dieu, chercher le Saint-Esprit. C'est tout un apprentissage de chercher, et ensemble. Parce que quand le Saint-Esprit il parle à tous de la même façon. Donc en fait, il y a l'unité qui se fait, on le voit dans l'acte des apôtres, hein. Ils étaient tous un, ils étaient unis, parce qu'ils étaient sous l'onction de l'Esprit. Et c'est ça qu'il faut de nouveau retrouver ensemble en communauté, c'est d'être sous l'Esprit avec des objectifs qu'il donne à cette Église pour avancer, pour remporter des victoires. Il faut comprendre que la prière est un privilège et pas un devoir. C'est pour ça que je vous exhorte à venir dans les réunions de prière qu'aujourd'hui, en ce moment, on fait les mercredis, parce que il faut comprendre que c'est un privilège de pouvoir prier. Si on le considère comme un devoir, comme les pharisiens le faisaient, ah, il faut prier, etc. Effectivement, là, on retombe dans la religion, d'une part. Il faut. Non, c'est un privilège qui est vraiment incroyable de savoir que Dieu nous donne la possibilité de le prier directement, parce que le voile maintenant était déchiré. On n'a plus besoin de passer par des intermédiaires comme dans l'Ancien Testament. Donc voilà, considérons ça vraiment comme un privilège. Et là, notre manière de voir la prière sera différente et notre enthousiasme pour la prière sera totalement différent. C'est un moment où on peut interagir avec le Créateur de l'univers. Vous vous rendez compte ? On peut interagir avec lui. Et donc, c'est ça qui doit nous aider à comprendre différemment la prière. Il ne faut pas oublier dans la prière de demander la protection contre l'ennemi. Déjà, Alexis en a parlé ce matin, hein, parce que l'ennemi est toujours présent, surtout quand on veut avancer dans la prière. Et puis, l'ennemi, il entend. Hein, il entend. Le parler en langue, non. Il ne peut pas intervenir. On le reverra ça quand j'enseignerai là-dessus. Mais la prière, il entend. Et donc, il sait ce qu'on demande, etc. Il peut attaquer, il peut contre-attaquer, etc. Vous voyez, c'est vraiment un combat spirituel. Donc, il faut demander à Dieu de protéger ce qu'on prie, de protéger cette approche que nous faisons, que Dieu nous donne de pouvoir avancer dans cette approche de la prière. Prier avec foi. J'ai longtemps insisté la semaine dernière là-dessus, je le rappelle juste rapidement. Hébreux chapitre 11, verset 1, je traduis selon la King James, qui est la plus proche du texte original. Or la foi est la substance ou fondement des choses qu'on espère ou qu'on doit espérer, C'est une démonstration, ou même une évidence, de celle qu'on ne voit pas. C'est-à-dire les systèmes des réalités invisibles qui sont à notre disposition. Les anges sont à notre disposition. Oui. C'est pas à nous de leur donner des ordres, mais c'est Jésus qui leur donne des ordres pour nous. Donc il y a tout un système derrière les choses qui sont invisibles aujourd'hui, qui existent. Et c'est ça le chrétien. Sinon, on n'a rien d'autre de plus que les gens du monde, si on ne croit pas que quelque chose existe. Alors, les gens du monde tombent dans le Nouvel Âge. Hein, donc, ils pratiquent des choses qu'ils ne maîtrisent pas, et là, ils deviennent esclaves. Mais dans ce monde qui existe, vous savez que même dans le monde physique, des choses qu'on ne voit pas et qui existent. Hein. Regardez juste les ultrasons, les chiens, ils entendent, il y a des sifflets ultrasons, vous n'entendez rien, le chien, il entend, ne serait-ce que ça. Les couleurs, enfin tout, etc. Alors, ne parlons pas des atomes. Hein. Tout ça, c'est des atomes, bon, on ne les voit pas. Bon, par contre, la science a permis de les mettre en évidence. Et on sait les lois, on connaît comment ça marche, etc. Donc, sur le plan physique, il y a des choses invisibles. Si on n'y croit pas, bon, c'est tant pis pour nous. Mais ceux qui font les iPhones et machins comme ça, c'est, eux, sont obligés d'y croire, parce que sinon, ils ne pourraient pas maîtriser. Sinon, votre téléphone, il ne marcherait pas du tout, ce serait n'importe quoi. Donc, il y a des gens qui maîtrisent l'invisible dans le physique. Et c'est ça qui permet de nous donner les communications. Vous avez déjà vu les ondes ? On ne les voit pas, les ondes. Bon, voilà, les atomes, on ne les voit pas. Mais voilà, la lumière, elle est faite d'ondes et d'atomes. Et donc, dans le monde physique, c'est vrai, mais dans le monde spirituel, n'en parlons pas. Alors, des fois, il y a des apparitions. Des fois, il y a des choses. Alors, ça nous étonne, on ne sait pas, on ne comprend pas, etc. Mais donc, on l'attribue à des choses et on part dans tous les sens. Et c'est ce qu'on appelle le côté mystique. Mais si nous avons la foi, eh bien, c'est la substance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il y a Chouraki qui a traduit une Bible, parce que lui, il est juif, et donc il connaît bien la langue hébraïque, etc. Lui, il ne parle pas de la foi, enfin, il traduit la foi comme l'adhérence. Il dit « l'adhérence est la substance de ce qui est espéré, la preuve de ce qui n'est pas visible ». C'est intéressant que le mot « foi », il le traduit par « adhérence ». Et donc, lui, il comprend bien le sens des mots qui sont utilisés dans la Bible. Eh bien, c'est vrai que la foi doit être adhérer aux choses qui existent. Voyez-vous, c'est les choses qui existent dans l'invisible, il faut y adhérer. Voilà. Et c'est ça le principe de la foi. Et quand on y adhère, eh bien, on voit du résultat dans nos prières. Nous, dans notre vision d'Église, on a ce slogan, si vous voulez, croire, comprendre, agir. Croire, comprendre, agir, c'est ce qu'on enseigne dans l'Église. C'est une démarche de métamorphose. Vous savez ce que c'est la métamorphose ? C'est les chenilles qui deviennent des papillons. Hein ? C'est incroyable, ça. Dans la nature, vous avez des chenilles qui rampent, hein, qui ne peuvent pas faire autre chose que de ramper. Et à un moment donné, ça devient un papillon qui vole. Voilà. Eh bien, nous, dans notre Église, on a pris cette image pour montrer que quand on croit, donc on a la foi, qu'on comprend la foi, parce qu'on peut comprendre la foi, on peut comprendre les choses même dans l'invisible, parce que la parole de Dieu nous aide, eh bien, quand on comprend, c'est-à-dire on prend en soi ce qu'on a compris, eh bien, et quand on agit conformément à la foi. Et d'une chenille, on devient papillon. C'est-à-dire qu'on arrive à vivre dans la vie chrétienne de manière différente. On arrive à remporter des victoires qu'on ne pouvait pas remporter quand on est voilà, sur le plancher des vaches, comme on dirait. On prie, mais on ne prie pas avec conviction. On ne s'attend pas forcément à ce que Dieu... Et c'est dramatique si on prie de cette manière-là. Alors que si on prie avec foi, eh bien, on voit les choses différemment. Là, c'est juste l'image de ce que j'ai expliqué dimanche prochain. Si vous voulez en savoir plus, il faut prendre le message. Hein, où le centenier qui a compris comment fonctionne l'armée, donc c'est le triangle rouge à droite, eh bien, il a compris que le royaume de Dieu fonctionne de la même manière. C'est le triangle bleu et le triangle noir, qui est le système de Satan, qui aussi a son armée à sa disposition pour nous nuire. Eh bien, il a compris que ça fonctionnait comme ça, dans l'invisible. Et il y a il y a le général qui commande l'armée, et lui-même était je sais pas s'il était officier ou sous-officier, il était entre les deux, et il savait que s'il donnait un ordre, et était suivi et que lui-même suivait l'ordre qu'on lui donnait. Donc cette transmission, il a compris que Jésus était dans ce système-là, au niveau invisible, au niveau de la création des anges qu'il a sous ses ordres. Et quand il dit quelque chose, et même Satan est sous ses ordres, voyez, ce qui n'est pas du tout le cas de nous. Donc quand on comprend ça, eh bien, on peut aller beaucoup plus loin dans la vie chrétienne. Je vous renvoie au message de dimanche dernier. Dans Éphésiens 6, Éphésiens 6 rappelle toutes les armes qu'on doit prendre en tant que chrétien, et Pasteur Oscar a fait une série là-dessus. Eh bien, la septième arme, parce qu'il y en a sept, il y en a six qui sont bien décrites, mais la septième, c'est la prière. Et c'est celle-là qui donne l'efficacité à toutes les autres. Si vous avez toutes les armes sans la prière, eh bien, vous n'allez pas très loin. Parce qu'en fait, dans les armes d'Éphésiens 6, il n'y en a qu'une qui est offensive. Toutes les autres sont défensives. Hein, le bouclier, les chaussures, etc. L'arme offensive qui est décrite dans les six premiers, c'est l'épée de l'esprit. C'est-à-dire, vous pouvez déclarer la parole de Dieu. C'est important. Hein. Déclarer les promesses. Jésus a déclaré les promesses devant Satan. Il a dit, il est écrit. Et du coup, il s'est protégé d'une séduction qui était en train de s'opérer pour qu'il chute. Voilà. Donc la parole de Dieu est importante de manière offensive, mais aussi défensive, parce que justement, ça nous protège. Mais il y a une arme qui est absolument capitale, qui donne le pouvoir à tous les autres, c'est la prière. Parce que ça, ce sont des choses dans le naturel, dans les choses apparentes. Et vous savez, l'ennemi, lui, il envoie des flèches, hein, il n'est pas tendre avec nous. Mais quand on prie, il se passe quelque chose, eh bien, la prière déclenche des choses surnaturelles. Et ces choses surnaturelles, ce sont les anges qui sont sous les ordres de Jésus, qui sont activés pour nous aider. Ça s'appelle des messagers. Les anges sont des messagers à notre service. Mais à notre service, non pas à nos ordres, mais à notre service parce que Jésus les déclenche, parce que toute autorité lui a été donnée dans le ciel et sur la terre. Et ça, nous en avons besoin, surtout quand on veut avancer. Si on veut être un chrétien tranquille, tout ça, voilà. Bien sûr, on n'a pas besoin de tout ça, mais l'ennemi non plus ne va pas nous déranger. Qu'on n'est pas une menace. Quand on n'est pas une menace, l'ennemi reste tranquille. Mais quand on est une menace, quand on veut faire avancer le royaume, quand on veut évangéliser, quand on veut amener des personnes au Seigneur, eh bien, l'ennemi va nous attaquer. Mais quand on prie, eh bien, Jésus, il intervient, il donne des ordres, il nous protège, il nous garde et il déclenche des choses invisibles. Et ça, c'est ne pas faire. Vous voyez, c'est faire. Il faut utiliser les armes. Donc je ne dis pas qu'elles ne sont pas utiles, au contraire, il faut les utiliser, mais en même temps la prière, et du coup, les deux réunies, elles nous donnent des victoires dans la prière. La foi est une substance qui peut augmenter ou diminuer. Donc ça, c'est nouveau aujourd'hui. Faut comprendre que la foi, on a bien parlé de substance, c'est quelque chose de réel. Une substance, c'est quelque chose qui existe réellement. Dieu existe réellement, vous le croyez, hein? Les théologiens, on appelait ça une substance, parce qu'ils ne savaient pas trop comment appeler ça. Eh bien, la foi aussi est une substance. Et cette substance a une dimension, si vous voulez. Elle peut croître ou diminuer. Par exemple, les apôtres, dans Luc 17, disent au Seigneur, augmente notre foi. Ça veut dire quoi, augmente? C'est-à-dire qu'elle peut diminuer, elle peut rester stable, elle peut, voilà, elle, un peu comme un curseur, vous voyez, on peut changer, on peut modifier la puissance de la foi, augmente notre foi. Alors Jésus leur dit, si vraiment vous aviez la foi, leur répondit le Seigneur, même aussi petite qu'une graine de moutarde, vous pourriez commander à ce mûrier, là, juste à côté, il y avait un mûrier, arrache tes racines du sol et va te planter dans la mer et il vous obéirait. Allô ? Vous voyez la puissance de la foi. C'est Jésus qui dit ça. C'est pas quelqu'un d'autre. Donc il a quand même une autorité que vous reconnaissez en tant que chrétien. Et Jésus dit ça à ses disciples. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si nous, nous nous contentons d'une foi qui ne produit rien dans la prière, eh bien c'est quelque chose qui ne va pas, c'est que notre foi n'est pas à la hauteur de cet enseignement de Jésus. Donc la foi est une substance qui a une valeur. Elle peut varier. Hein, voilà. Alors, la foi est progressive. Dans Marc, chapitre 6, verset 1, Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, ils se mirent à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens l'entendirent. Ils étaient étonnés et disaient, d'où cela vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ? Et comment de tels miracles se font-ils par son intermédiaire ? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jos, de Jude, de Simon ? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici, parmi nous ? Et il représentait un obstacle pour eux. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa... Et, c'est ça qui est important, après toute cette narration de cette histoire, il ne put faire là aucun miracle. Alors, le vrai terme qu'il faudrait traduire dans la Bible, c'est pas miracle, c'est signe. Parce qu'un miracle, c'est, voilà, c'est miraculeux. Il y a quelque chose qui arrive, voilà, de l'eau changée en vin, c'est un miracle. Le signe, c'est aussi un miracle, mais qui désigne une réalité. Par exemple, si je pars d'ici, je vais sur l'autoroute, j'ai deux signes. Un signe qui indique Rouen et un signe qui indique Paris. Donc, suivant où je veux aller, je suis le signe. Mais le signe n'est pas la réalité. Rouen n'est pas sur le signe, il faut y aller. Paris, il faut y aller. Ben c'est pareil. Quand Jésus faisait un miracle, ou plutôt un signe, c'est qu'il envoyait en même temps un message pour dire « ça vient du règne de Dieu, du royaume de Dieu, c'est le royaume qui descend, c'est le royaume qui agit. » Voyez-vous ? Et c'est ça qui est important, ce n'est pas des miracles pour des miracles pour des miracles, c'est un miracle pour que le royaume soit annoncé. Et en général, quand Dieu fait quelque chose de miraculeux, c'est derrière, il faut que nous l'utilisions pour annoncer l'évangile, pour annoncer la foi, pour que les gens viennent à Christ. Vous savez, ma femme, elle est née avec une Bible sous le bras, comme on dit, toute petite. Ses parents étaient dans le mouvement de réveil en France. Il y a eu un mouvement de réveil en début du siècle dernier chez ce qu'on appelle les pentecôtistes, Assemblée de Dieu aujourd'hui. Il y avait des miracles comme ça. Toute sa famille était miraculée, sinon Michel serait plus là, elle devait mourir, enfin ses parents aussi, etc. Et à l'époque, les réunions, enfin les temples ou les salles, si vous voulez, il y avait un énorme bandeau, plus grand que ce qu'on a dehors, « Viens et vois ». C'est « Viens et vois ». C'est-à-dire, voilà, on disait simplement, bah, tu viens dans la salle, viens et vois. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient sûrs que quand ils venaient, comme ce matin, il y avait un miracle, ou plusieurs miracles. Ma femme allait dans les réunions le dimanche, eh bien, il y avait 5 ou 6 miracles tout le temps. C'était la norme. Hein. Des gens, des goitres énormes comme ça, pof, ça partait. Un pasteur, il y avait plus de jambes, la jambe est croissée, et puis la personne avait deux jambes complètement. Ça, c'est des miracles. Nous, John Wimber qui est là, on a eu aussi l'occasion de voir des miracles comme ça quand on était en Angleterre pour voir. Et il enseignait justement la théologie du royaume. Et pendant une heure, il nous enseignait la théologie du royaume. Et après, il disait, Saint-Esprit vient, Saint-Esprit venait, et tout. Il y avait des miracles. On les a vus. Moi, je les ai vus dans les années 90. C'est pas si vieux que ça. Il faudrait que ça revienne. Il faudrait que ça revienne, ça. Il y en a qui ont envie que ça revienne? Oui? Levez la main. Ouais, amen. Eh bien, si on exerce la foi, parce que, vous savez, Dieu n'a pas changé. Vous croyez que Dieu a changé? Il n'a pas changé. Qui est-ce qui a changé? C'est nous. C'est notre foi. C'est parce qu'on n'a pas assez de foi. À Nazareth, Jésus n'a pas pu faire de miracle. Jésus n'a pas pu faire de miracle ou de signe, si vous voulez. Vous voyez que il y a quand même. Il faut, moi, j'essaie de réfléchir quand je lis des textes comme ça. Je ne sais pas comment. Je passe pas comme ça sur des passages. Je dis, Seigneur, pourquoi? Aide-moi à comprendre. Pourquoi toi, le Fils de Dieu, toi qui es en contact avec le Père, tu n'as pas pu faire de miracle? Eh bien, John Wimber nous a enseigné. Il a dit, il faut de la foi. Il faut la foi. Sans la foi, c'est impossible de faire des miracles. Même Jésus. Tout ce qu'il pouvait faire, j'ai juste imposé les mains et quelques guérisons se produisaient. Mais pas de miracle. Parce que il faut, c'est une substance qui doit grandir pour, alors vous pouvez avoir un peu de foi pour votre salut, un peu de foi, mais la foi qui déclenche, eh bien, le royaume, eh bien, il faut beaucoup plus de foi. Alors vous voyez, il y a de la foi et même de l'antifoi. Contre la foi. On pourrait, tout à l'heure, Jérôme a ouvert la voie dans les mathématiques, hein, de 0 à 100%, hein, définir la foi. Je dirais que les disciples avaient peut-être 50% de foi, et même peut-être moins. Ben, ils ne croyaient même pas que Jésus devait mourir. Voyez, et même Pierre a dit, mais non, Seigneur, ça n'arrivera pas. Et Jésus a dit, arrière de moi, Satan, à Pierre. Voyez, parce qu'il n'avait pas la foi. Il croyait que Jésus allait délivrer des Romains, mais pas du salut de leurs péchés. Il n'avait pas compris qu'ils devaient être pendus au bois. Donc, vous voyez, même des disciples, ils peuvent avoir très peu de foi. Je n'ai pas caractérisé leur pourcentage, mais c'est en dessous de 50%. Alors que le centenier avait 100%. Le centenier, un soldat romain, n'était pas du tout juif. Et Jésus dit, mais j'ai jamais rencontré en Israël cette foi-là. Et le centenier a dit, mais Seigneur, dis juste un mot, c'est tout, un mot, et mon serviteur est guéri. Et Jésus a dit le mot, il est parti, il était guéri, quand il est rentré, il était guéri. Vous voyez, c'est aussi simple que ça, la foi. La foi est simple, mais il faut qu'elle soit le plus possible vers les 100%. C'est tout. Et l'antifoi, c'est l'incrédulité. C'est même un refus de croire. Et du coup, Dieu ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Pourquoi? Parce que Dieu respecte notre liberté. Si vous voulez, enfin, je dis vous, si vous étiez des gens antifoi, eh bien, si vous n'avez pas envie de voir, eh bien, Dieu ne va pas vous violer. Dieu n'est pas un violeur. Dieu est un gentleman. Il respecte notre liberté. Il nous a donné une liberté, il la respecte. Donc, il faut faire très attention à la foi. Comment est-ce que... Et normalement, une église, qui est une bonne église, elle doit augmenter la foi. Dimanche après dimanche, il faut que notre foi, par la parole, par l'exhortation, par ce qu'on vit ensemble, par nos différents échanges, l'objectif d'une église, c'est de nous faire grandir dans la foi. Et donc, ça s'appelle l'incrédulité. En dessous de 0%, ça va dans l'autre sens. Et donc, il y a une rébellion à la foi. Et les gens de Nazareth étaient dans ce sens-là. Pourquoi ? Parce qu'ils ne voyaient pas l'invisible. Ils voyaient Jésus. Ils disaient, mais oui, c'est le charpentier. Mais oui, tu te rappelles, il était avec nous. Pendant des années, ils l'ont vu faire des choses avec son père, avec Joseph, etc. Donc, vous voyez, ça, si vous regardez au visible, ben, votre foi, elle est zéro. Le fils du charpentier, il veut nous faire croire qu'il fait des miracles. Mais non, c'est du fake news. Hein, et à Jérusalem, il fait des choses. Voyez. Donc ça va même à l'encontre de la foi. Jeunesse en mission, qui a évangélisé le monde entier, eh bien, avait une échelle pour former ces jeunes, c'est surtout des jeunes, à l'évangélisation. Et il disait que la France est le tombeau des missionnaires. C'est ce qu'on... Il voulait, à un moment donné, il ne voulait plus envoyer des missionnaires en France parce que, eh bien, ils tombaient les uns après les autres au bout d'un an, deux ans, trois ans. Et voilà, il préférait investir n'importe où, même en Arabie, même au Koweït. Ça marchait mieux qu'en France. C'est le tombeau des missionnaires. Et pourquoi ? Eh bien, parce que en France, on cultive l'antifoi. Eux, ils ont traduit ça de manière différente quand, dans leur école d'évangélisation. Ils faisaient une échelle de moins 10 à plus 10. Ils disaient, si vous rencontrez des personnes dans la rue, je ne sais pas, vous allez dans la rue, vous discutez pour annoncer l'évangile. Si vous rencontrez une personne qui est hostile, bon, c'est moins 10. Donc moins 10, il faut y aller, il faut leur expliquer gentiment, etc. Zéro, c'est là où vous pouvez faire la prière du repenti, enfin de celui qui se donne à Jésus. Vous pouvez prier avec lui pour arriver à zéro. Et ensuite, après, plus 10, c'est la croissance du chrétien jusqu'à ce qu'il arrive à maturité. Donc voilà, c'est comme ça qu'ils expliquaient à leurs disciples comment il faut évangéliser. Et dans certains pays, il y en a qui sont à zéro, voilà, parce que voilà, ils sont pas hostiles à l'évangile, etc. Et vous, très rapidement, dès que vous discutez avec quelqu'un, vous vous proposez à la fin de la discussion, prier avec lui, donner son cœur à Jésus, etc. Donc ça, c'est zéro. Et quand ils envoyaient des jeunes en France, eh bien, il fallait qu'ils utilisent une autre échelle qui n'existait pas pour des autres pays. C'est moins 12. C'est moins 12. Là, c'est jeunes sans mission, hein, c'est pas moi. Ils ont dit, vous commencez à moins 12. Pourquoi ? Parce qu'il faut déjà de les amener à moins 12, à moins 10, ensuite à moins 8, à moins petit à petit, etc. Donc, ça prend du temps. Parce qu'il y a une hostilité à l'évangile. Il y a une antifoi. C'est l'incrédulité des Français. Et c'est pour ça que c'est très difficile dans notre pays. Bien sûr, le Seigneur, il sauve des gens, c'est clair. Merci Seigneur. Mais je vous ai dit, le réveil en France dans les années 1930 jusqu'à la guerre, c'était que les miracles qui les amenaient. Parce que en France, c'est la ville lumière, c'est la raison, c'est la science, c'est la connaissance. C'est, vous voyez, ça vient d'Athènes, hein, ça vient de la Grèce, hein, des philosophes, etc. Bon. Et on est imbu de ça, et tous les Français sont imbus. Et le pays en remplit. Il est rempli de cette incrédulité. Donc, il faut, c'est pour ça que nous, on va développer le côté missionnel pour arriver à nouveau à réévangéliser, c'est-à-dire adapter notre évangélisation à ce qu'on puisse amener des Français. Il y en a qui veulent voir des Français venir à l'évangile. Hein ? Parce que moi, je suis très content qu'il y ait des Africains, des Antillais, tout ça. Ils ne sont pas du tout hostiles à l'évangile. Pas du tout. Mais les Français de souche, oui, oui. Parce qu'il y a cette racine. En plus, il y a un autre problème, c'est l'anticatholicisme. La foi de l'Église en France doit augmenter pour voir des miracles ou des signes qui bouleversent la raison de nos contemporains. Tout à l'heure, je vais vous montrer quelque chose qui bouleverse notre raison, ce sont les rêves et les visions. Alors, quelles sont les requêtes aujourd'hui, les prières qu'on devrait faire en tant qu'Église ? Seigneur, instruis-nous par toutes sortes de moyens pour que nous puissions être agréables. C'est une prière très ouverte. Seigneur, ouvre-nous les yeux sur les priorités que tu nous souhaites, que nous prenions, en particulier la prière. Augmentons-nous la foi pour voir des miracles qui bouleversent nos concitoyens. Croyons que Dieu nous parle aussi par des rêves, des songes, des visions, pour nous inciter à la prière. Et je voudrais vous montrer une voie qui est celle des rêves. Il y a Michèle, mon épouse, qui récemment, en 2018, a eu ce rêve, une femme dans l'église avec sept bavards, etc. Et Dieu nous avait utilisé ce rêve pour nous avertir qu'il y aurait un temps difficile dans l'église et que c'était une révélation du fonctionnement de l'esprit, ce qu'on appelle de Jézabel. C'était à l'époque, historiquement, c'est une femme qui avait amené des idoles dans le pays d'Israël et qui s'est opposée à Élie qui était le serviteur de Dieu. Et cet esprit, il est toujours valable. Et on a pu, en tout cas les responsables, en tout cas Michel et moi, on savait qu'il fallait se préparer et on s'est préparé à ça. On n'a pas pu arrêter parce que le Seigneur a utilisé un frère pour l'arrêter, mais 4 ans après. Mais le Seigneur utilise les choses pour que les responsables soient avertis et qu'ils puissent faire attention. Et les rêves sont là pour ça. Et là, c'était un homme qui était dehors, etc. Voilà. Donc après, il faut chercher la signification, parce que Dieu parle au travers des rêves. Il y en a déjà qui ont des rêves qui viennent du Seigneur? Ça peut me lever la main que je vois? Personne? Oui, ben, levez la main. Voilà. Ça m'encourage de parler à des gens qui savent un petit peu des choses. Les rêves sont très, très importants. Pourquoi? Parce que ça court-circuite la raison, et surtout en France. Parce que la raison, vous êtes toujours raisonné. Quand vous voyez des choses dans le visible, vous raisonnez. Et justement, ça empêche la foi. Quand vous êtes la nuit dans les rêves, bien sûr, votre cerveau fonctionne, mais vous n'avez pas la capacité de vous mettre en opposition à ce qui se passe. Donc, en fait, vous recevez le rêve, et le lendemain, eh bien, il faut le décortiquer. Et je vais vous montrer un peu comment on décortique un rêve, mais ça sera enseigné dans l'école du phare, où on va apprendre à décortiquer les rêves. Ça, c'est un rêve, j'oublie le rêve de Michel, qui nous a parlé en tant que responsable. Mais ça, c'est un rêve qui peut s'appliquer à nous tous et à nous en tant qu'Église. C'est le rêve de la panne de carburant. Voilà. Alors, j'ai essayé de vous le faire écouter, ce rêve, pour que vous puissiez voir un peu comment le Seigneur parle. Alors, la métaphore de la foi, je vous donne juste une clé et j'expliquerai le rêve après. C'est une voiture qui représente la prière, par exemple, et le carburant qui représente la foi. Voilà. Donc, vous voyez, dans un rêve, il y a des significations, ça s'appelle des signes, parce que Dieu parle. Alors, je n'ai pas le temps ce matin, parce que ce n'est pas l'objet de ma prédication, parler des songes, des rêves, il y en a énormément dans la Bible, hein, que ce soit Daniel, Ézéchiel, machin, etc., tout le temps, que ce soit Joseph, etc. Et ça, il faut connaître aussi ce genre de la manière dont Dieu nous parle au travers des rêves. Je crois qu'il ne se déclenche pas. J'ai quand même essayé, mais tout à l'heure, il ne s'est pas déclenché. Je vais voir. Non, il ne se déclenche pas, donc je vais le déclencher.
Out of all of God's...
Ah, vous ne voyez pas.
I have a dream. I get into my truck to go to a meeting.
Attendez, j'aurais voulu que vous voyiez l'image. Je sais pas comment faire pour voir l'image. Ah si. Si, on le voit l'image. Ouais, parce que là, ouais, je m'étais pas préparé à ça parce que. Normalement, il devait se déclencher tout seul. Aïe, aïe, aïe. Si vous ne voyez pas l'image, c'est embêtant. Ah. Faut que j'aille là-dessus. T'es arrivé?
And on the way to the meeting, I run out of gas.
Il a dit qu'il était à une réunion de prière et il est tombé en panne. Donc je fais un rêve. Nous, on pourrait le faire pour l'église, hein, mais c'est ce qu'il fait tout à l'heure en trois semaines comme ça. Voilà, donc il s'aperçoit qu'il est en panne, il prend son jerrycan, c'est dans son rêve. Hein. Son jerrycan et
I start walking to the nearest gas station.
Il se met à marcher vers une recherche d'une station service. Vous arrivez à voir parce que j'arrive pas à l'agrandir. Ah, peut-être que... Ça va?
And I finally get to it, only to discover it's closed.
Donc, il arrive à une station et elle est fermée. Il regarde la vitre.
I feel the need to knock on all the doors and to look into the windows and to make sure it's been abandoned.
C'est abandonné.
Then I walk to one of the pumps and I start pumping the gas. And to my amazement, the gas starts to flow.
Il était étonné qu'il y ait de l'essence. Il repart. Il met de l'essence.
And I'm able to fill up my truck and get to where I'm going.
Et il reprend. Voilà. Est-ce que vous avez compris la signification de son rêve? Attendez. Il me faudrait un informaticien qui m'aide là. Mais je vais peut-être y arriver. Ah voilà, je vais récupérer. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont compris le rêve?
Hello?
Non, personne? Alors. Je vais faire une école sur les rêves. Hein. Donc, pardon ? Ouais, là, tu commences à être sur la piste. Alors, dans les rêves, il y a des significations, comme dans la parole, les mots ont des significations. La voiture, c'est pour aller d'un endroit à un autre, vous êtes d'accord ? D'aller d'un point à un autre. Et ça représente l'Église aussi. Parce que l'Église, comme je le disais tout à l'heure, quand on vient à l'Église, normalement, on doit être fortifié dans la foi. Et de semaine en semaine, eh bien, les ministères qui sont là, les pasteurs, etc., doivent fortifier la foi de celui qui vient à l'Église. Et donc, lui, il voulait aller dans une réunion, ils appellent ça un meeting, pour fortifier sa foi. Et là, il tombe en panne. Il tombe en panne. La panne, c'est qu'il n'y a plus de foi, si vous voulez. Vous voyez, c'est la foi, un peu ce que je disais tout à l'heure, l'essence, la signification. Dans un rêve, après, il faut demander au Seigneur de vous éclairer. Mais il y a des principes, hein. Il y a des choses qui sont faciles à expliquer quand vous avez des rêves. Nous, on a eu beaucoup de rêves pour cette église, et à chaque fois qu'ils se sont réalisés, mais il faut bien connaître la signification. Et donc, la foi, c'est la foi, il n'y a plus de foi. Donc il va dans cette station pour chercher la foi. Et qu'est-ce qu'il voit? Il arrive à la vitre. Et la vitre s'appelle, c'est la vision. C'est le principe d'une vitre. Quand vous rencontrez une vitre, c'est une vision. Et il voit que l'église, là où il va, pour avoir la foi, il n'y a pas de vision. Vous voyez, c'est pour ça que Jean-Paul Englert, cette semaine, nous a dit il y a plusieurs choses, dont la vision. Il faut une vision pour l'église, et Dieu donne une vision à chaque église. Et il faut que tous les chrétiens suivent cette vision, pour que l'Église puisse être unie, puisse remplir sa vie. Donc là, c'est la vision. La porte, rappelez-vous, Jésus a dit « Je suis la porte ». Il essaye d'entrer. une église qui n'ouvre pas la porte et qui ne permet pas aux gens d'accueillir le Seigneur. Par contre, il y a quelque chose qui est intéressant dans le rêve, c'est que lui, alors que c'est une station-service qui faisait des années qu'elle ne marchait plus, il a eu la foi pour aller à la pompe. Et là, au miracle, il y avait de l'essence. Vous voyez, c'est un rêve, hein. Mais avoir de l'essence dans la pompe, alors que ça fait des années que la station ne marche plus, bon, imaginez. Donc, vous voyez, c'est ça, Dieu parle comme ça. Et donc, lui, il avait la foi pour remplir, et hop, ça coulait. Vous voyez, et donc, ça lui a parlé, personnellement. Et moi, j'aimerais dire que nous, on est dans la même situation, en tant qu'Église. En tant qu'Église, on a perdu la vision. Hein, et quelle vision ? Bah, je vais la rappeler à l'Assemblée Générale prochainement. Hein. C'est que Dieu, il y a 500 ans, eh bien, il a suscité ici...
Out of all of God's creation, only humans are capable of having faith.
Bon, maintenant, je peux plus
What is faith? Faith isn't a basic human need like food or water. You won't see faith mentioned as an...
Alors. Et maintenant, ça marche. Ça marchait pas. Il y a eu un blocage là. Non, parce que la vidéo en plus est très longue. Oui. Alors,
out of all of God's creation, only humans are capable of having faith.
Bon, je suis désolé. J'ai passé les explications parce que là, j'arrive pas à maîtriser le truc. Il y a 500 ans, ici, Dieu avait une vision pour son royaume. Hein. C'est qu'il a suscité des protestants réformés, qui voulaient réformer l'Église catholique, si vous voulez. Ils ne voulaient pas faire une autre Église. Hein. Les protestants réformés voulaient réformer l'Église catholique. Et donc après, ils ont été rejetés. Okay, ça a eu les guerres de religion, etc. Mais cette réforme, eh bien, elle était accueillie ici, à Aubergenville, il y a 500 ans. Elle était accueillie ici et ça donnait naissance à une communauté très grande, à Vaux-les-Huguenots, qui est le quartier d'Aubergenville, au sud de cette commune, puisque là, on est au nord et au sud, à Aubergenville au milieu, et au sud, c'est Vaux-les-Huguenots. Vous pouvez y aller. Il y a encore les traces, justement, de cette communauté. Et donc, Dieu avait une vision. Et dans toute cette région, qui était complètement hostile, hein, avec la Reine, avec Versailles, avec Paris, enfin, c'est un miracle qu'une communauté de 40 familles ait pu exister. Par la suite, ils ont créé un temple, qui est en ruine. Et en 1989, ce bâtiment qui était un ancien cinéma-théâtre, hein, qui encore on a gardé cette frise, hein, vous voyez de Christ, on gardait ça. Et en 89, Dieu nous a envoyés ici pour repartir sur cette vision de Dieu qui, quand il commence quelque chose, Dieu, voilà, il a la suite dans ses idées. Hein, et donc, il veut de nouveau créer une communauté. Donc, c'est notre privilège, mais c'est aussi un défi, de reprendre la suite pour continuer à rayonner. Et Dieu a dit, ce sera un phare, parce que c'est lui qui l'a décidé, c'est pas nous. Et indépendamment de nos capacités, il va faire un phare. Et maintenant, il faut simplement qu'on le réalise. 500 ans après, cette vision est toujours vraie. Et il y a de la foi. Il y a de la foi, vous voyez, on peut utiliser, même si ça a été abandonné, eh bien la foi, elle est là, parce que Dieu a placé la foi dans ce lieu, dans cette ville. Et si ça, on le croit, c'est l'invisible, si ça, on le croit, eh bien on va prendre la pompe et la foi va couler et notre foi va grandir et on pourra réaliser la vision du phare, vous voyez. Donc c'est quelque chose qui nous est enseigné, pour que nous puissions eh bien, nous servir aujourd'hui dans cette nouvelle saison. Voilà. Jean-Paul Englert, cette semaine, nous a parlé des sept églises de l'Apocalypse. Et moi, ça m'a fait réfléchir. J'ai dit, le Seigneur n'a pas utilisé Jean-Paul pour... voilà, en général, il est vraiment guidé par le Seigneur pour prendre des passages bibliques. Eh bien, Thyatire et Sardes, eh bien, ils étaient... Il leur a dit, soyez vigilants, restez vigilants. Affermissez le reste, gardez sa parole et sa vision, et repentez-vous d'avoir délaissé votre appel. Et c'est ça qui nous est enseigné en tant qu'Église. Nous reprenons l'appel que le Seigneur nous a donné et nous allons voir des choses merveilleuses se produire. Le passage d'Apocalypse qui parle à l'Église de Sardes, et Jean-Paul avait pris ce passage mercredi dernier, il dit « Écris à l'ange de l'Église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu, les sept étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste. » Et Lémy veut faire mourir l'Église ici parce qu'il sait qu'il y a des grandes bénédictions derrière. Mais la parole nous dit, sois vigilant. Affermis le reste qui est sur le point de mourir car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole, garde-la et repens-toi. C'est aussi un envoi vers la repentance, et la repentance du corps, repentance d'une communauté. Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur, sans que tu saches à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'elles en sont dignes. Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le Seigneur nous dit, eh bien, levez-vous, levons-nous dans la foi pour rentrer dans cette vision que le Seigneur a préparée de longue date. Je terminais en disant dans nos requêtes, dans nos prières, dans tout ce que nous faisons au niveau de notre approche vers le Seigneur, n'oublions pas de rendre grâce à Dieu. Rendre grâce, c'est important. Les dix lépreux, rappelez-vous, eh bien, il n'y en avait qu'un qui a eu la reconnaissance. Ce passage nous est relaté, il dit, Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Et se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Vous voyez là, parole du Seigneur, et tout est à sa disposition pour accomplir le miracle. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Une fois de plus, voyez, c'est pas un Juif, c'est un Samaritain. Quelqu'un qui normalement, n'a pas la foi en soi. Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris ? Et les 9 autres, où sont-ils ? Ne s'est-il pas trouvé que cet étranger, pour revenir et donner gloire à Dieu ? » Puis il dit, et ça, c'est important. Le plus important, c'est ça. Puis Jésus dit, lève-toi, ta foi t'a sauvé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y en a qu'un qui a été sauvé. Les autres n'ont pas été sauvés, ils ont été guéris. Et on le voit, dans les temps de réveil, il y a des gens qui sont guéris, mais qui ne sont pas sauvés. Ce qui est important, c'est d'être sauvé, les amis. Le miracle, le signe, c'est pour nous amener au salut en Jésus-Christ. Et c'est ça qui est important. Et là, dans ce cas-là, eh bien, celui qui était reconnaissant, il a eu droit au salut en Jésus-Christ. Donc soyons reconnaissants. Le mot sozo, pour le mot guérir, veut dire complètement. Complètement, garder complètement, délivrer du danger et de la destruction. Ça, c'est le mot guérir. Vous voyez, guérir, c'est pas juste, voilà, j'ai mal aux pieds et puis je suis guéri. Non, non, c'est être complètement rétabli dans l'intégrité de sa personne, et ça comprend le salut spirituel en Jésus-Christ. Et la gratitude, mes amis, est importante. Soyez reconnaissants. Quand vous priez, eh bien, soyez reconnaissants, parce que ça prouve que votre foi fonctionne. Parce que vous croyez que le Seigneur vous l'a donné. Et donc, vous le remerciez parce qu'un seul mot de sa part et les choses. Et si vous le croyez, ça veut dire que vous manifestez votre foi. Et si vous avez cette autre foi, vous pouvez être reconnaissant parce que vous croyez que Dieu répond aux prières. C'est pas vrai ? Amen. Voilà, et je termine en disant que je recommence les enseignements qui ne sont pas de moi, qui sont d'un théologien, George Eldon Ladd, mais c'est un livre qui aujourd'hui existe. Vous pouvez vous le procurer à 39 euros. On peut vous le commander, donc il y aura à la fin Charles qui va prendre vos noms, etc., si vous voulez suivre ces enseignements-là. Je les ai faits il y a quelques années dans l'Église. Je recommence pour ceux qui souhaitent approfondir le royaume de Dieu, comment fonctionne le royaume. Et donc, si on veut les mêmes résultats que ce qu'on a vu avec John Wimber, c'est toujours possible de voir les miracles à condition de savoir comment fonctionne le royaume et quelle est la puissance du royaume et comment ce royaume se manifeste, comment le Seigneur règne dans l'Église aujourd'hui et dans le monde. Et donc, c'est ce livre-là qui nous permet. Alors, comment ça fonctionne ? Eh bien, vous avez le livre. D'ici une semaine, si tout le monde a le livre, je vous donne le chapitre à lire. Il y a beaucoup de chapitres. Hein. C'est un livre qui a un certain nombre de sujets sur le royaume. Vous le lisez, et puis par Zoom, on fait un compte-rendu. Enfin, un compte-rendu, je vous donne certaines explications pour mieux le comprendre. Mais c'est vous-même qui allez vous nourrir de la parole et vous nourrir des enseignements sur le royaume. Donc, voilà, je vous le propose. Pour moi, c'est bien sûr un travail supplémentaire, mais je le fais volontiers. Je ne suis plus pasteur opérationnel, mais un pasteur enseignant. Et donc, je propose cette formation à tous ceux qui le souhaitent et qui puissent bien s'inscrire avec Charles tout à l'heure. Parce qu'on peut acheter pour moins cher avec le port. Donc, si vous voulez vous l'acheter, vous allez sur... Les libraires chrétiens préfèrent que vous l'achetiez chez eux plutôt que sur Amazon. Ça existe sur Amazon. Mais ils disent que l'Amazon, ça détruit les librairies chrétiennes. Et c'est à peu près le même prix. Mais nous, on peut avoir des prix si on achète 10 en même temps, par exemple, ou même si on va sur Paris les chercher. Je vous invite à prier pour que le Seigneur nous donne la grâce de recevoir cet enseignement pour que nous puissions voir des signes, des miracles, des prodiges, des choses qui vont changer, transformer notre environnement ici. Seigneur, nous te remercions parce que toi, tu n'as pas changé. Seigneur, augmente en nous la foi. Aide-nous, Seigneur, à entrer dans la réalité de la foi qui saisit ces réalités-là, Seigneur, et que nous puissions avoir l'attitude du centenier et pas l'attitude des disciples que tu as dû reprendre parce qu'ils n'avaient pas saisi, compris ta vision, compris ton appel, compris les choses comme il fallait les comprendre. Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur. Eh bien, viens au secours de notre incrédulité et augmente notre foi, Seigneur, et que cette Église puisse répondre à l'appel extraordinaire que tu as pour elle, Seigneur, afin que ici, Seigneur, ce soit un endroit où les gens vont venir courir parce que, Seigneur, ta présence est là. Tu vas établir un shalom ici, Seigneur, qui va se répandre, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que toi, tu accomplis, Seigneur, ta vision et ta volonté. Et nous te disons merci. Merci, Seigneur, de nous faire entrer dans ces choses. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen.